Amy Elliott Dune, 23 août 2010. Journal. Le printemps, les jonquilles, les petits oiseaux. J'ai passé la journée à me traîner dans Prospect Park. La peau sensible, les os cassants. À lutter contre le malheur. C'est une amélioration. Vu que j'ai passé les 3 jours précédents chez nous dans le même pyjama, à compter les heures jusqu'à 17 heures, heure où je m'autorise mon premier verre. En tâchant de me forcer à penser à la souffrance au Darfour, à mettre les choses en perspective. Ce qui, en un sens, n'est qu'une manière supplémentaire d'exploiter le peuple du Darfour. Il y a tellement de choses qui se sont défaites la semaine dernière. Je crois que c'est ça le problème. C'est que tout est arrivé en même temps. Alors je suis en état de choc affectif. Nick a perdu son travail il y a un mois. La récession est censée se ralentir, mais apparemment personne n'est au courant. Et Nick a perdu son boulot. Deuxième vague de licenciement. Exactement comme il l'avait prédit. 3 semaines après la première. Merde, on est loin d'avoir viré assez de monde, imbécile. Au début, je crois que Nick va peut-être s'en sortir très bien. Il fait une impressionnante liste de choses qu'il a toujours voulu faire. Des petites choses pour certaines. Il change les piles de sa montre et remet les horloges de la maison à l'heure. Il remplace un tuyau sous notre évier et repeint toutes les pièces que nous avions déjà peintes mais qui ne nous plaisaient pas. En gros, il refait pas mal de choses. C'est agréable de prendre réellement le temps de refaire des choses. On en a si peu souvent l'occasion dans la vie. Puis il s'attelle à des tâches plus conséquentes. Il lit Guerre et paix de la première à la dernière page. Il caresse l'idée de prendre des cours d'arabe. Il passe beaucoup de temps à essayer de deviner quelles sont les compétences qui seront les plus recherchées sur le marché du travail dans les décennies à venir. Ça me brise le cœur, mais je prétends que non, par égard pour lui. Je ne cesse de lui demander « Tu es sûr que ça va ?» Au début, j'essaie sérieusement quand on boit le café en le regardant dans les yeux, en posant une main sur la sienne. Puis j'essaie sur un ton léger, enjoué, en passant. Puis j'essaie tendrement au lit, en lui caressant les cheveux. C'est toujours la même réponse. Je vais bien. Je n'ai pas très envie d'en parler. J'ai écrit un test parfait pour l'occasion. Comment supportez-vous votre licenciement? Petit A. Je passe mes journées en pyjama à manger plein de glace. S'apitoyer un peu sur son sort, c'est thérapeutique. Petit B. Je poste des saloperies sur mon ancien patron, partout sur le net. Décharger sa colère, ça fait un bien fou. Petit C. En attendant un nouveau boulot, j'essaie de trouver matière à occuper utilement mon temps libre, comme d'apprendre un langage recherché sur le marché du travail ou de lire enfin Guerre et paix. C'était un compliment pour Nick. Sa réponse était la bonne. Mais quand je lui ai montré, il n'a eu qu'un demi-sourire. Quelques semaines sont passées et l'agitation a cessé, comme s'il s'était réveillé un matin sous un vieux panneau poussiéreux qui disait « À quoi bon se casser le cul ?» Ses yeux sont devenus ternes. Maintenant, il regarde la télé, surfe sur des sites porno, regarde du porno à la télé. Il se fait souvent livrer ses repas. Les barquettes d'alu s'entassent près de la poubelle qui déborde. Il ne m'adresse pas la parole. Il se comporte comme si l'acte de parler le faisait souffrir physiquement et que j'étais une méchante femme d'exiger ça de lui. Il hausse à peine les épaules lorsque je lui apprends que j'ai été licenciée la semaine dernière. « C'est terrible. Je suis désolée, » dit-il. « Au moins toi, tu as ton argent pour retomber sur tes pattes. » « Nous avons notre argent. Mais j'aimais mon boulot. » Il commence à chanter « You can't always get what you want. » Faux, d'une voix suraiguë, en effectuant une petite danse trébuchante. Et je réalise qu'il est saoul. L'après-midi touche à peine à sa fin. C'est une journée de grand beau temps, avec un ciel bleu sans nuages, et notre maison est froide et humide. L'atmosphère est chargée de l'odeur douceâtre de la nourriture chinoise en train de moisir, et les rideaux sont tirés. Je passe de pièce en pièce pour aérer. J'ôte les tentures, je chasse les boules de poussière. et quand j'arrive dans le salon plongé dans l'obscurité, je trébuche sur un sac posé par terre, puis sur un autre, puis un autre, comme un chat de dessin animé qui entre dans une pièce pleine de pièges à souris. Quand j'allume, je vois des dizaines de sacs qui proviennent de boutiques que ne fréquentent pas les gens qui ont perdu leur emploi. Les boutiques de luxe pour hommes, les endroits où les costumes sont faits main, où les vendeurs apportent les cravates une par une, drapées sur un bras, à des acheteurs bien calés dans des fauteuils en cuir. Sérieusement, c'est du sur-mesure, tout ce bordel? Qu'est-ce que c'est que tout ça, Nick? Pour les entretiens d'embauche, si un jour quelqu'un se remet à embaucher. T'avais besoin de tout ça? On a l'argent, me dit-il avec un sourire sinistre, les bras croisés. Tu veux pas les suspendre au moins? Plusieurs emballages plastifiés ont été déchirés par Blicker. Il y a une petite motte de vomi de chat à côté d'un costume à 3 000 $. Une chemise blanche de tailleur couverte de poils orange, là où le chat a fait sa sieste. Non, pas vraiment, non. Il me fait un grand sourire. Je n'ai jamais été une emmerdeuse. J'ai toujours été plutôt fière de mon caractère coulant. Alors ça me gonfle que Nick me force à le harceler. Je suis prête à vivre avec une certaine dose de laisser-aller, de paresse, d'indolence. Je me rends compte que plus que Nick, je suis une personnalité de type A. Et j'essaie de faire attention à ne pas lui imposer ma manie du rangement et des listes de choses à faire. Nick n'est pas le genre de mec qui va penser à passer l'aspirateur ou nettoyer le frigo. Il ne voit pas ce genre de truc. Très bien, vraiment. Mais j'aime bien quand même éviter de tomber au-dessous d'un certain niveau de propreté. Je pense qu'il est juste de dire que la poubelle ne devrait pas déborder et que les assiettes avec des restes de burrito ou haricots séchés dedans ne devraient pas moisir dans l'évier pendant une semaine. C'est le béaba d'une bonne colocation entre adultes, rien de plus. Et Nick ne fait plus rien. Alors je suis obligée de le harceler et ça me gonfle. Tu me transformes en ce que je n'ai jamais été et n'ai jamais voulu être, une emmerdeuse. Parce que tu n'arrives pas à honorer ta partie d'un contrat très basique. Ne fais pas ça. Ce n'est pas bien de faire ça. Je sais. Je sais que perdre son boulot, c'est incroyablement stressant. En particulier pour un homme. On dit que ça peut être semblable à un deuil. Et en particulier pour un homme tel que Nick qui a toujours travaillé. Alors je prends une énorme respiration. Je comprime ma colère en une balle de caoutchouc rouge. Et je l'expédie mentalement dans l'espace d'un coup de pied. Bon, ça te dérange si je les suspends? Juste pour te les garder en bon état.
Si ça t'amuse. Le licenciement de monsieur. Le licenciement de madame. C'est pas mignon?
Je sais que nous avons davantage de chance que la plupart des gens. Quand je suis prise de nervosité, je vais consulter en ligne mes fonds en fidéicommis. Je n'ai jamais parlé de fidéicommis avant que Nick utilise ce mot. Il n'est pas si spectaculaire que ça. Enfin, c'est pas mal, c'est super. J'ai 785 404 $ d'économie, grâce à mes parents. Mais ce n'est pas le genre de somme qui vous permet de cesser de travailler pour toujours. Surtout pas à New York. Le but de mes parents, c'était que je me sente suffisamment en sécurité pour ne pas avoir à faire de choix qui reposent sur des questions d'argent, dans mes études ou mon orientation professionnelle, mais pas assez à l'abri pour être tentée de me la couler douce. Nick s'en amuse. Mais je trouve que c'est un geste formidable de la part de mes parents. Et légitime, étant donné qu'ils ont plagié mon enfance pour leur livre. Mais je suis encore malade à l'idée du licenciement, de nos licenciements, lorsque mon père appelle pour me demander s'il peut passer avec maman. Ils ont besoin de nous parler. Cet après-midi, tout de suite, même si ça ne pose pas de problème. Bien sûr que ça ne pose pas de problème, je dis. Et dans ma tête, résonne le mot « cancer ». Mes parents arrivent à la porte. On voit qu'ils ont fait un effort. Mon père porte une chemise parfaitement repassée, sans un pli. Ses chaussures sont cirées. Il est impeccable, à part les valises qu'il a sous les yeux. Ma mère porte ce mauve vif, une robe parme, qu'elle portait toujours pour les discours et les cérémonies, à l'époque où elle se faisait inviter. Elle dit que cette couleur oblige à avoir confiance en soi. Ils sont splendides, mais ils ont l'air d'avoir honte. Les enfants. Mary Beth et moi, il semble que nous... commence mon père. Puis il s'interrompt pour tout sauter. Il pose ses mains sur ses genoux. Ses jointures épaisses sont toutes pâles. Eh bien, il semble que nous nous soyons mis dans une situation financière catastrophique. Je ne sais pas quelle est censée être ma réaction. Choquée, consolatrice, déçue. Mes parents ne m'ont jamais avoué le moindre problème. Je ne pense pas qu'ils en aient eu beaucoup. Le fait est que nous avons été irresponsables, poursuit Mary Beth. Ces 10 dernières années, nous avons vécu comme si nous gagnions toujours autant d'argent que durant les 2 décennies précédentes. Or, ce n'était pas le cas. Nous n'avons pas gagné la moitié de ce que nous gagnions avant, mais nous étions dans le déni. Nous étions optimistes, pour le dire gentiment. Nous continuions de penser qu'avec le prochain Amy, nous allions nous renflouer. Mais ça n'a pas marché, et nous avons continué à faire de mauvais choix. Nous avons fait des investissements stupides. Nous avons fait des dépenses stupides. Et maintenant, nous sommes pratiquement sur la paille, dit Rand. Notre maison et celle-ci, tout est hypothéqué. J'avais cru, j'avais supposé qu'ils nous avaient acheté cette maison comptant. Je ne me doutais pas qu'ils avaient toujours des remboursements dessus. Je ressens soudain un pincement de honte, car je suis en fait aussi protégée que Nick le prétend. Comme je l'ai dit, nous avons fait de graves erreurs de jugement, continue Mary Beth. On devrait écrire un livre. Les patentes Amy et les hypothèques à taux variable. On serait collé à toutes les questions. On serait l'exemple contraire. L'ami d'Amy, Wendy, qui veut tout de suite. Harry, la tête dans le sable, ajoute Rand. Alors, quelle est la suite? Eh bien, ça dépend complètement de vous, dit mon père. Ma mère sort de son sac une brochure faite maison et la pose sur la table devant nous. Des mesures, des graphiques et camemberts créés sur leur PC. Ça me tue d'imaginer mes parents plissant les yeux pour essayer de comprendre le logiciel, tandis qu'ils tentent de trouver une présentation agréable pour la proposition qu'ils vont me faire. Mary Bess se lance. Nous voulions te demander si nous pouvions emprunter de l'argent de ton fidéicommis le temps de décider ce qu'on va pouvoir faire des années qu'il nous reste. Mes parents sont assis devant nous comme 2 étudiants empressés qui espèrent décrocher leur premier stage. Le genou de mon père tressaute jusqu'à ce que ma mère l'immobilise doucement d'un doigt. Eh bien, l'argent du fidéicommis est à vous, alors bien sûr que vous pouvez emprunter, je dis. Je veux simplement que tout ça se termine. Cette expression d'espoir sur le visage de mes parents, je ne peux pas la supporter. De combien pensez-vous avoir besoin pour rembourser ce que vous devez et vous mettre à l'abri pendant un petit moment ? Mon père regarde ses souliers, ma mère prend une profonde inspiration. 650 000 $, dit-elle. Oh ! C'est tout ce que j'arrive à dire. Ça représente presque tout ce que nous avons. Amy, peut-être qu'on devrait discuter, tous les deux, commence Nick. Non, non, on peut le faire. Je vais chercher mon carnet de chèques. En fait, si tu pouvais nous faire un virement demain, ça serait le mieux. Sinon, il y a une période d'attente de 10 jours. C'est là que je comprends qu'ils sont vraiment dans la merde.